Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille, nous sommes bien installés dans la cour de l'université pendant une heure, c'est des idées sous les platanes. Comme chaque jour maintenant et pendant les 3 semaines que dure le Festival d'Avignon, nous nous retrouvons dans cette même cour, sous les platanes, sous un auvent, pour une heure de discussion. On y parle théâtre, on y parle de littérature, d'histoire, de science, on y parle de notre corps, de la nature, mais on y parle surtout du texte, de tous les textes, le texte qu'on lit, le texte qu'on écrit, le texte qu'on représente, le texte qu'on met en forme. Le texte qu'on négocie, celui qu'on traduit. Aujourd'hui, comment politique et économie travaillent le texte avec Bernardo Carvalho, qui est écrivain. Bonjour Bernardo Carvalho.
Bonjour.
Je suis ravi d'être avec vous ce matin. On s'était rapidement vu il y a des années à Sao Paulo, mais ça avait duré assez trop peu de temps.
Oui.
En tout cas pour moi, peut-être pas pour vous. Vous êtes écrivain, vous êtes brésilien, la plupart de vos livres sont traduits en français. J'imagine que certains sont dans la librairie qui est en face de nous, de cette cour de l'université. Alors je précise juste que si vous parlez si bien français, car vous parlez excellemment bien français, c'est parce que dans votre vie précédente, votre vie de journaliste, vous avez été correspondant à Paris.
Oui.
Pour le principal quotidien brésilien.
Folha de São Paulo.
La Folha de São Paulo. Ouais. C'était au début des années 90. Alors, ce qui nous intéresse, nous, pendant ces 3 semaines, c'est le texte, notre rapport au texte, la production du texte, le pouvoir du texte. Alors, avant qu'on en arrive à des questions plus directement politiques et qui sont posées par le texte que vous avez écrit et qui est mis en scène en ce moment au festival, je voudrais juste vous interroger sur la question juste du passage au théâtre. Parce que c'est pas si vieux finalement dans votre travail.
Non, ça fait je sais pas, c'était en 2003-2004. C'est le même metteur en scène qui est là, Antonio Araújo, avec son groupe qui s'appelle le Théâtre du Vertige. Ils m'ont invité à écrire un texte pour eux et avec eux. C'était différent de cette fois-ci. Et c'était leur idée, c'était de travailler l'identité brésilienne. Ça n'existe pas vraiment, mais enfin, comme si pour questionner ça. Et à partir d'une recherche, d'un voyage qu'on allait faire dans un camion, les 30 personnes du groupe dans le camion avec des couchettes comme ça, de São Paulo jusqu'en Amazonie, jusqu'à la frontière avec la Bolivie. Et on a fait ça pendant un mois. Après, on a fait des ateliers à São Paulo, dans des bidonvilles et tout ça. Et la pièce, elle a été écrite avec le groupe, à partir des improvisations, à partir du voyage, des recherches qu'on avait fait. Alors, c'était un processus totalement différent de cette fois-ci.
Alors, j'annonce juste que j'ai retrouvé, mais je ne vais pas le lire tout de suite, je vais faire un effet de suspense.
Ah oui.
J'ai retrouvé, vous aviez dans Libération, en 2005, vous aviez raconté.
Oui.
Vous aviez raconté cette expérience et le texte avait été intitulé par Libération « Je hais les acteurs ». Et je vous lirai quelques extraits, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Mais avant ça, avant qu'on voit pourquoi vous haïssez les acteurs, vous les haïssiez peut-être.
J'avais des raisons, il faut dire.
Oui, oui. Mais on les énumérera les raisons pour lesquelles vous haïssiez. L'écriture théâtrale, par rapport. Parce que quand même, vous avez pratiqué des types d'écriture très très différents. Et vous continuez à les pratiquer. C'est-à-dire que vous avez commencé par le journalisme. D'ailleurs, est-ce que vous avez commencé par le journalisme ou est-ce qu'à côté, vous aviez une pratique.
Non, c'était le journal. À propos de l'écriture, c'était le journalisme. Avant, je voulais faire du cinéma. J'ai raté tout, ça n'a pas marché. Et comme ça, je suis passé à l'écriture et par le journalisme, parce que j'étais critique. Au début, je faisais de la critique de cinéma. Et comme ça, je suis tombé dans le journalisme pour survivre.
Ouais.
Et j'ai fini correspondant en France, aux États-Unis. Et après, j'ai dû quitter ça et revenir à quelque chose de plus artistique, entre guillemets.
Est-ce que vous croyez, pourquoi est-ce que vous avez raté dans le cinéma, dans l'image ? et que vous avez réussi en littérature, qui est aussi une question de production d'image. D'une
certaine
manière.
Oui, et je crois que mon écriture, elle est beaucoup liée à l'image aussi. C'est pas vraiment l'image, c'était plutôt les moyens de production. Ah. C'était, je me suis rendu compte que je suis pas capable de créer un groupe. Et ce qui est bizarre par rapport au théâtre et par rapport à une expérience comme celle-là.
Peut-être que c'est pour ça que vous avez célébré.
Oui, peut-être. Oui, ouais. Ils avaient des raisons de me haïr aussi.
Donc c'est plus la question des moyens de production que la question donc, de
oui,
l'écriture et de l'image.
Je crois que c'est très difficile. Il faut avoir une présence d'esprit, je ne sais pas si on dit ça en français, mais de résoudre des choses sur place, en vitesse, et faire face à des surprises, des choses inattendues. Et moi, je suis plutôt calme, je ne suis pas calme du tout, mais je veux dire, chez moi, quand je travaille, j'ai du temps. Ça, c'est très important pour moi, que j'ai du temps, que je puisse réfléchir, que je puisse penser des choses, que je ne sois pas pressé à trouver des réponses et des solutions à toute vitesse. Comme c'est le cas, par exemple, pour Antonio, j'ai vu qu'ils ont monté la pièce avant à Bruxelles. Ils n'ont eu que 2 mois pour le faire. Ouais. C'était dans la bourse de Bruxelles. Que c'est une bourse, un immeuble du 19e siècle désaffecté. C'est énorme. Et ils ont dû entrer là-dedans dans 2 mois, monter absolument tout. Et c'est l'enfer. Et moi, par exemple, je ne serais pas capable de ça. J'ai eu l'idée même de suivre les répétitions. Ouais. Je lui ai proposé, je dis, est-ce que je peux suivre les répétitions? Il a dit, pas du tout, t'es interdit. Et il m'a quand même accordé que j'y aille pour 3 jours. Je l'ai fait, mais dans la 2e journée, j'ai déjà craqué. J'ai eu une crise de nerfs avec les acteurs de nouveau. Ouais. Et oui, parce que c'est hyper tendu et c'est... Et c'est beaucoup de travail aussi, c'est pas pour moi. Enfin.
C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous aimez dans l'écriture, c'est aussi de vous abstraire de conditions de production. C'est-à-dire que l'écriture, c'est juste, vous êtes face à, je sais pas, vous écrivez face à un ordinateur, j'imagine.
Oui.
Donc vous êtes là, vous êtes face à votre ordinateur, point. C'est-à-dire qu'en termes de moyens de production, il n'y a que ça, c'est tout l'ajout d'autres moyens de production,
oui,
d'autres problèmes, etc.
C'est et, ça là, que... et je sais pas, dans l'imagination, on est beaucoup plus libre que dans la réalité. Alors on peut quand même créer des choses, imaginer des choses qui peut-être ne marchent pas dans la réalité. Et ça, je me rends compte aussi pour l'écriture de théâtre, il y a des choses qu'on imagine chez soi. Et qu'on arrive sur le plateau, enfin sur la scène, et on tâche de mettre ça en scène, et ça ne marche pas du tout. Ouais. Et c'est quelque chose que je n'avais pas en tête, que j'avais pas la conscience de ça. Et je me suis rendu compte avec le travail avec Antonio. Mais je trouve que c'est hyper difficile, le théâtre. C'est quelque chose de... C'est quand même un miracle que ça marche, qu'il y ait des spectacles qui marchent, parce que c'est incroyable.
Alors, puisqu'on a parlé de ce texte, donc c'est donc un journal, comme Libération fait des journaux, hein, ouais. dans sa édition du week-end. Là, c'était le samedi 5 et dimanche 6 mars 2005, hein, donc ça date presque 10 ans. Donc, samedi, voilà, le samedi. Je déteste les acteurs, donc je vous lis, hein, c'est vous qui parlez là. Je déteste les acteurs. Je croyais les aimer. Il y a plus d'un an, j'ai été invité à écrire le texte de la prochaine pièce d'une des troupes les plus radicales, les plus intéressantes, les plus violentes du théâtre brésilien, le théâtre du Vertige. Nous sommes allés ensemble en camion de São Paulo jusqu'à la frontière du Brésil avec la Bolivie, en Amazonie, un trajet de plusieurs milliers de kilomètres par la route, un voyage d'un mois. L'idée était de créer une pièce qui partirait de l'expérience commune de la troupe et qui unirait 3 lieux. Brasilândia, à la périphérie de Sao Paulo, dominée par la criminalité et la pauvreté, Brasilia, la capitale du pays, et Brasileia, dans l'état de l'Acre, où le Brésil prend fin. Nous avons passé une année à organiser des ateliers à Brasilândia pour les adolescents. Je saute un peu. La première est prévue pour le mois de septembre. Nous en sommes à la phase des improvisations. Depuis janvier, j'assiste tous les soirs avec le metteur en scène à ce que les acteurs proposent à partir de la structure dramatique et des personnages que j'ai conçus lorsque nous sommes revenus d'Amazonie. Je n'en peux plus. Ce n'est pas par hasard que je n'arrive plus à penser à autre chose. À ma stupéfaction, ma trame initiale se transforme peu à peu, et très souvent pour ma plus grande horreur. Surtout quand les improvisations sont confiées à un des 30 jeunes acteurs, stagiaires, en quête d'un rôle, qui se sont associés au projet. Ils disent que cela fait partie du processus, et c'est à moi, et que c'est à moi de m'adapter. Je saute un peu. Lundi, au haine, au désespoir. C'est gradué, hein. Le metteur en scène dit que je n'ai pas besoin de venir pendant les 3 prochains jours. Déjà, hein, déjà 10 ans avant, c'est déjà le même problème.
Oui.
Il souhaite me ménager. Sans doute n'espère-t-il plus que je sois entre ses pattes. Les stagiaires m'évitent. Il m'est difficile de contrôler mon expression de frustration et de haine pour ne pas parler de désespoir quand au bout de 4 heures d'improvisation, jusqu'à tard dans la nuit, vous demandez à une actrice d'entrer en scène, telle une apparition silencieuse. Un personnage incongru de fiancé abandonné et perdu au milieu de la forêt qui débarque au milieu d'une tribu d'Indiens. Scène qui devait être étrange et comique à elle seule, sans que des dialogues soient nécessaires. Or, la voilà qui arrive en hurlant, comme une dingue, qui se jette par terre, qui se débatte convulsivement et déchire sa robe blanche, pendant que les autres acteurs déguisés en Indiens l'observent avec perplexité, de même que le metteur en scène, son assistance et moi, tous bouche bée. Voilà, je saute vendredi, intitulé « Ce n'est pas possible », j'ai décidé de dire aux acteurs que je les déteste. Une des actrices regarde... Vous êtes quelqu'un de calme, donc.
Oui, très calme.
Une des actrices regarde avec stupéfaction les autres qui gardent le silence et elle déclare que ce n'est pas possible, que je mens. Je choisis de ne pas la contrarier. Vous les haïssez toujours, les acteurs, aujourd'hui, Bernardo Carvalho ?
Non, ça dépend. Il y a des moments, mais je les aime aussi. C'est comme ça. C'est des relations hyper intenses, je crois. Mais déjà, je crois qu'ils ne me comprennent pas.
Que moi, alors, je suis la victime. C'est quoi le problème, alors ?
Moi, j'ai dit des choses très directement. Dès que je pense quelque chose, et j'ai compris, pour les répétitions au moins, il faut avoir de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Par exemple, si on arrive le matin et ils lisent très bien quelque chose, c'est super, formidable. Et alors, on commence les répétitions et ça ne fait que s'empirer jusqu'à 10 heures du soir. Et c'est chaque fois pire. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que la première fois, c'était formidable. Et alors, à la fin de 20 heures de répétition, on dit, mais c'était super avant, et pourquoi c'est nul maintenant? Et alors, ils sont fâchés.
Ça s'appelle la vie, Bernardo Carvalho.
Oui,
ça commence bien et ça finit mal.
Oui.
Mais non, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de que vous ne supportez pas que vos textes soient, retravaillés, mal interprétés? C'est ça, c'est un problème d'intégrité de ce que vous avez écrit, non?
Pas vraiment, non, parce que là, j'ai appris quand même à laisser aller beaucoup. Et je vois, par exemple, il est là pour le spectacle qui est à Avignon. C'est évident qu'il a une esthétique d'Antonio et de son groupe qui n'a rien à voir avec mon esthétique idéale à moi. Et moi, je suis très admiratif de ce qu'il fait. Je trouve qu'il est formidable. C'est peut-être le groupe le plus important pour moi et au Brésil, absolument. Mais c'est évident que moi, je fais quelque chose de différent d'eux. Mais ça ne me gêne pas.
D'accord.
Le problème, c'est que, comme je disais, il y a un moment où ils disent le texte parfaitement.
Ouais.
Et soudain, ça explose et ils ne reviennent plus jamais à
et
ce moment-là.
Peut-être que c'est parce qu'ils le disent parfaitement pour vous, mais pas parfaitement pour ce que c'est que le dispositif.
Oui,
quoi. C'est ça, en fait. Mais donc, ça revient à la question que je posais.
Est-ce
que vous ne supportez pas?
Oui, peut-être
que
je ne supporte pas. Oui, c'est tout simplement.
Mais ne m'engueulez pas, s'il vous plaît. Je
ne veux
pas que... Et c'est quoi le plaisir? Le plaisir de l'écriture théâtrale, pour le coup, parce que vous pratiquez, donc je le disais, vous êtes journaliste, donc vous avez pratiqué, vous continuez à pratiquer de temps en temps des interventions scripturales type journalistique.
Oui.
Vous avez écrit des nouvelles aussi, des romans évidemment, vous traduisez, tout ça c'est des dispositifs textuels d'écriture qui sont très différents. Alors c'est quoi, pour commencer, le plaisir ou la difficulté, selon vous, de l'écriture dramaturgique, du texte dramaturgique?
Je me suis rendu compte, je croyais que c'était facile, que je me suis rendu compte que c'est très difficile parce que c'est ça, l'imagination, elle ne correspond nécessairement à la réalité. Et alors, on imagine quelque chose, mais pour le passer ce quelque chose à la réalité, ça demande des efforts incroyables. Et ce qu'on écrit n'est pas passable à la réalité nécessairement, ce n'est pas direct. Mais moi, j'ai un attrait pour le théâtre qui c'est un peu inconscient, incompréhensible. J'adore ça.
Ah bon?
Oui. Mais j'adore ça vraiment. J'ai une fascination. Mais dès que je m'y mets, je comprends que c'est pas pour moi. C'est pas l'écriture. L'écriture, je veux bien que ça soit pour moi. Mais de, par exemple, travailler avec les acteurs, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible, que ce n'est pas mon truc. C'est une idéalisation complète que j'ai par rapport à ça. Mais j'ai cette fascination du théâtre, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qui vous fascine dans le théâtre?
Mais je ne sais pas, c'est l'idée de quelque chose qui se passe là et qui sera une fois et plus jamais. Et peut-être c'est ça aussi que... Et pour ce groupe-là, c'est très particulier parce que dans le spectacle qu'on a fait avant celui-là, et qui se passait sur un fleuve, C'était le public allait dans un bateau, un grand bateau sur un fleuve qui coupe la ville de São Paulo et qui en vérité c'est comme un égout à ciel ouvert, c'est presque solide et c'est horrible, mais c'était ça l'idée de la pièce. Et les scènes se passaient sur les berges, sur les ponts et sur d'autres bateaux plus petits et tout ça. Et j'ai vu une répétition, une répétition générale.
Ouais, une répétition générale.
Et c'était un été. Et ça a commencé à pleuvoir et ça pleuvait des cordes, c'était des pluies tropicales, Brésil vraiment en été. Et c'était comme un rideau de pluie, mais comme si c'était solide aussi. Et ils jouaient contre nature. Et ça, c'était incroyable parce qu'ils avaient des micros et les micros ont commencé à exploser. Ils étaient vraiment en nage, tous. Les costumes étaient détruits, tout était détruit. Et ils jouaient quand même, ils avançaient, ils jouaient, ils avançaient. La pluie s'empirait aussi. Et c'était un spectacle en soi. Il a eu un moment où ils ont dû arrêter parce qu'ils n'ont pas arrivé jusqu'à la fin, parce que la nature gagne toujours. Mais c'était quand même tellement fort que je me suis dit, c'est ça le théâtre que j'aime. C'est ça, plus jamais. Enfin, c'était perdu. C'était un truc pour un moment, seul moment, et plus jamais. Et je crois que ça arrive beaucoup avec ce groupe-là. Et c'est un peu ça qui me fascine. Et je crois que c'est un peu ça la différence entre ce groupe et les genres de textes que moi j'écris, qui est hyper réfléchi, hyper travaillé. Il y a il y a des détails, des trucs d'ironie, d'humour qui je disais là pour ce spectacle. Ils vont tellement fort, ils vont tellement à fond et c'est tellement vite que ça se perd. On n'a plus le temps d'avoir l'humour ou l'ironie, tout ça. C'est super, mais c'est une autre façon de faire les choses.
Mais du coup, quand vous écrivez pour le théâtre, donc vous êtes obligé de ne pas écrire aussi précisément. Vous savez qu'il va y avoir de la déperdition.
Oui, mais j'aime beaucoup le théâtre rigoureux. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est le contraire de ce qu'on fait ici avec le Vertige. Mais j'aime beaucoup ce théâtre où il est. C'est hyper précis et que le texte soit hyper précis, qu'il y a des choses vraiment hyper réfléchies et pensées.
Même si ça se perd après dans l'incarnation.
Oui, mais quand on garde ça, on réussit à garder ça, c'est quand même incroyable aussi. C'est un autre genre de théâtre, mais par exemple Claude Régis, c'est quelqu'un que j'adore, et enfin je ne sais pas si je l'adore toujours, mais quand j'étais gamin et que je suis venu en France pour la première fois et que j'ai vu ces spectacles, j'étais fasciné par ça, et c'est vraiment l'extrême opposé de ce qu'on fait là nous à Avignon, mais j'adore ça et c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui dit que le théâtre c'est de rendre le texte visible, par exemple, et là ça m'intéresse aussi.
On met le théâtre, non, mais si on met le théâtre juste de côté quelques instants, quel plaisir vous trouvez à, pour le coup, une démarche qui est très très différente, qui est celle de la traduction, le texte de traduction, c'est quoi
pour moi comme traducteur?
C'est
bizarre parce que je crois que j'ai lu ça une fois, Peter Hunt qui disait ça, c'était comme de se reposer, la traduction. Et je crois qu'il a raison par rapport à l'écriture des romans. L'effort qu'on met pour écrire des romans, c'est un effort totalement différent de la traduction. La traduction, c'est comme... c'est pas mécanique, mais c'est plus manuel. C'est comme on était... C'est plus facile intellectuellement, je ne sais pas, c'est pour moi au moins. Il y a quelque chose qui est plus automatique, qui va... C'est pas notre création, c'est quelque chose qu'on va travailler dessus. Alors il y a déjà... le matériel, il est déjà là et il faut retravailler le matériel. Alors c'est... Je ne sais pas, c'est comme si le roman ou l'écriture directe serait la peinture et la traduction, le dessin. Et c'est quelque chose qu'on travaille... peut-être plus lentement, mais avec plus de...
C'est-à-dire qu'on peut aussi penser à autre chose pendant qu'on traduit ce...
Oui, je sais pas, on n'est pas si concentré. On peut être un peu ailleurs, pas vraiment, mais parce qu'on cherche des choses. Mais c'est comme si le texte était déjà là et que soudain, on tâche d'arriver à la... au vrai texte.
On cherche quelque chose qui est là, en fait.
Oui, il est là, il faut juste dépouiller les couches qui sont dessus. Et c'est un travail plus manuel, j'ai l'impression. C'est intellectuel, bien sûr, mais c'est pas pour mépriser la traduction.
Et par exemple, l'article de journal, si vous deviez le caractériser comme texte, vous diriez qu'il est plus proche de la nouvelle pour son côté court, un peu catchy, quoi, comme on dit. Ou alors de la traduction, parce qu'au fond, il s'agit peut-être d'être au plus près d'une réalité qui a été produite ailleurs, justement, comme
oui,
vous disiez.
Oui, je ne dirais pas de la nouvelle, parce que la nouvelle exige aussi une économie narrative. Il y a une logique narrative qui est plus précise que le roman même, parce que pour que ça marche, c'est quelque chose qui est hyper concentré, c'est un noyau vraiment hyper travaillé. Et ce n'est pas le cas du journalisme. Mais je crois que pour le journalisme, oui, peut-être c'est la traduction, mais je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Et alors, peut-être ça a à voir avec le théâtre aussi.
Quelle expérience ?
L'expérience d'aller rencontrer quelque chose.
Qui précède, l'écriture.
Oui, c'est l'écriture elle-même, mais avant la lettre, parce que c'est quand même l'écriture dans le monde. Et c'est le fait de rencontrer quelqu'un, d'aller faire un reportage, de rencontrer des choses qu'on ne connaît pas, qui vont nous étonner ou pas.
Vous aimez encore être journaliste ? Vous aimez encore écrire des articles ?
Si c'est des articles, comme on dit au Brésil, spéciaux, oui. Par exemple, là, on m'a envoyé au Pakistan, à Islamabad et à Karachi pour faire des conférences comme ça. Et on m'a proposé dans un journal d'écrire comme si c'était un journal de voyage. Et c'était super, c'était hyper amusant. Et c'était du délire, ce voyage. Et ça m'a intéressé. Alors, quand même, j'arrivais à parler du Pakistan, j'arrivais à parler politique et des choses comme ça, mais par le biais d'un voyage et de quelque chose qui était personnel et intime, quoi.
Est-ce que vous écrivez partout ? Est-ce que vous arrivez à écrire partout ? C'est-à-dire à l'hôtel, comme vous voyagez beaucoup ?
À l'hôtel, c'est pénible, je ne sais pas pourquoi.
Ah ouais.
Oui. Je ne sais pas, l'ambiance n'est pas appropriée, je ne sais pas. Mais je peux écrire n'importe où, mais à l'hôtel, ça n'arrive pas. J'essaye, c'est très...
Mais donc ça élimine quand même pas mal d'endroits parce que...
Mais maintenant, il y a le truc qu'on loue des appartements par Internet.
Alors Airbnb permet d'écrire.
Oui, oui, c'est ça. C'est un encouragement à l'écriture, oui.
Ah, on écrit mieux chez d'autres que
moi,
à l'hôtel.
Moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour d'autres, mais...
Alors, Bernardo Carvalho, chaque jour, on va fouiller un peu dans des bases de données en entrant des mots-clés pour voir ce qui sort comme son ou comme musique. En général, c'est YouTube. Et alors là, étonnamment, Véronique Lamandour, qui réalise cette émission, a tapé « crise » et « langage ». Et vous allez voir ce qui sort, Bernardo Carvalho. Alors, Bernardo Carvalho, il s'agit de l'adaptation d'un texte dont je vais vous donner le titre après. Un texte d'Éric Chauvier, donc, qui est écrivain, qui publie ses livres chez Alia. L'adaptation, la mise en scène, c'est Olivier Balazuc, qui dit aussi le texte avec Valérie Kérusoré, pardon. Et alors, ce texte s'intitule « La crise commence là où finit le langage ». Et alors, c'est une étrange, très étrange correspondance avec la pièce que vous avez écrite, et donc on en parlait tout à l'heure, et qui est donnée en ce moment à l'Hôtel de la Monnaie, « Dire ce qu'on ne pense pas dans des langues qu'on ne parle pas ». Et j'aimerais bien que ça nous occupe un petit bout de temps là, dans cette deuxième partie de l'émission, où on discute de textes, de ce qu'est le texte, la langue, etc., à quoi ça peut servir tout ça. Bon, voilà. Et alors, je trouve très beau cette espèce de communauté d'idées, sans même entre Chauvier et vous, sur cette idée qu'il y a un moment, enfin la crise, parce qu'il parle aussi, comme vous, de crise économique, de crise politique, etc. C'est une crise de la langue.
Oui, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, c'est une coïncidence, Mais je crois que dans la pièce là, mon idée c'était que la crise, la langue, elle porte le germe de la crise.
Et c'est donc l'inverse plutôt.
Oui. Et enfin, le germe de la crise est toujours là et il est dans la langue aussi. Et c'est ça qui. Enfin, je sais pas. J'ai pas des réponses. La pièce n'est pas l'illustration d'une thèse non plus. Mais c'était une commande. Alors, nous a été proposée. Et au début, j'ai cru que c'était vraiment. Il fallait suivre ça au pied de la lettre. Mais c'était sur la crise en Europe. Et alors, j'ai commencé à écrire sur ça. Et je voulais trouver des entrées dans le sujet qui soient un peu pas les entrées attendues de l'économie ou je sais pas quoi. Et je sais pas comment ça m'est venu, le titre de la pièce par exemple, et l'idée de crise là-dedans aussi. Et ça a beaucoup à voir avec, déjà le titre.
Donc tout dire ce qu'on ne pense pas dans des langues qu'on ne parle pas.
Oui, tout simplement, on peut le lire comme si c'était une définition de l'acteur, une définition possible de l'acteur. C'est celui qui dit ce qu'il ne pense pas dans des langues qu'il ne parle pas. Et tout simplement, alors je trouvais que c'était un peu beau quand même de nommer une pièce de théâtre comme acteur. Et c'est ça, c'est une manière de définir l'acteur. Mais à partir de là, il a le sens politique du titre. Et on a pensé crise, mais beaucoup à extrême droite, comme ça, parce qu'il avait des échos, des choses de la montée d'extrême droite en Europe et tout ça. On lisait des petites choses par-ci, par-là. Et je me suis dit, il a quand même, ce qui me terrorisait et étonnait en même temps, c'était que la montée de l'extrême droite en Europe, c'était quelque chose que... Aucun discours rationnel, était capable de freiner. Mmh. C'est ça qui est bizarre. Comment ? Parce que c'est évident que c'est freinable, quoi, par la raison. Le discours n'arrivait pas à freiner ça. Et c'était mon impression. Ouais. Et alors je me suis dit, il y a quand même quelque chose là-dedans, comme si l'extrême droite c'était une allergie. Par exemple, c'est comme des maladies auto-immunes.
Qui sont produites par le corps
lui-même.
Oui, ouais.
qui sont des germes qui sont en nous et qui peuvent éclater à un moment. Et dès qu'ils éclatent, il y a des manières, des remèdes pour apaiser les effets. Mais quand même, ça avance, quoi. Et c'est ça, c'est terrorisant.
Alors pourquoi dans la langue ? Alors, ils sont où ces germes dans la langue ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand il y a certains mots, certaines tournures,
Oui, je crois l'extrême droite, par exemple, utilise la langue comme un instrument d'imposture. Et ça, c'est très évident. Mais l'évidence de ça ne permet pas qu'on la combatte.
Ouais.
Et par exemple, ils sont pour un principe, pour l'État laïque, pour le bien des travailleurs, pour l'ouvrier. Tous les discours qui étaient à gauche avant, maintenant, ils sont dans la bouche de l'extrême droite.
Avec les mêmes mots.
Oui. Et comment c'est ce mouvement-là qui est terrorisant, et comment on l'empêche ? Et c'est comme si c'était impossible de l'empêcher parce que on sait vraiment quelles sont les solutions et par la raison, on sait que pour la crise, il y a quelques solutions possibles, mais on ne va pas donner le paradis aux gens. C'est pas la crise, elle est là et la réalité, elle est là. Et il y a des solutions qu'on peut avoir par la raison, par des mesures qui sont limitées, comme toujours. Et ce que l'extrême droite propose, c'est le mythe. C'est comme s'il n'y a plus d'histoire et c'est le mythe absolu, c'est la pureté, ouais. Quelque chose qui est le paradis, enfin un paradis abstrait. Et ils font ça avec une aisance et c'est très, pour moi, c'est très fort et c'est très pardon, pour le titre, c'était un peu ça, c'est cette langue qui a une possession. Personne ne dit je suis fasciste, moi je suis d'extrême droite, je vous dis ça. C'est toujours quelque chose d'autre. On n'est jamais l'extrême droite,
ouais,
n'est jamais.
Ils n'utilisent pas le terme extrême droite.
Oui, ils sont jamais fascistes, ils ont jamais la langue du fascisme. C'est quelque langue d'autre. Mais c'est comme une possession. Et les gens commencent à parler ça. Et aussi, je crois que l'extrême droite, le fascisme, c'est toujours lié à la lâcheté. On n'est jamais fasciste tout seul. Il faut toujours qu'il y ait des gens avec nous pour nous protéger, pour qu'on puisse être fasciste. Moi, je ne peux pas sortir là en criant « je suis fasciste, je vais tuer des Arabes ou des étrangers ou quoi que ce soit ». Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, quelqu'un derrière moi pour me donner du support, comment dire en français, d'appui ou de soutien. Et alors, c'est ça, ce titre-là, c'est un peu la possession de la langue. C'est quand on voit des masses qui crient, qui soutiennent Hitler. Ouais. C'est une possession c'est comme si l'individu était possédé par une langue collective qu'il ne domine pas. Alors, il dit ce qu'il ne pense pas. Dans des langues qu'ils ne parlent pas.
Ouais. Et est-ce que c'est juste, enfin c'est juste déjà beaucoup, mais est-ce que c'est juste l'extrême droite, le fascisme, ça, mais on a l'impression aussi que ce que vous racontez, c'est aussi l'espèce de, comment dire, d'ambiance économique. Oui. Qui est là, je suis né en 73, par exemple, j'ai l'impression, j'ai vécu dans la crise, par exemple. Mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire encore, ce mot-là ? C'est un mot dont vous parlez dans la pièce qui revient beaucoup. Crise de la représentation, comme ça, comme une sorte de mantra, mais qui perd son sens. Oui. Est-ce que c'est ça aussi ? Est-ce que l'ambiance économique utilise des mots qui sont presque vidés, qui ne veulent plus dire grand-chose ?
Oui, non, tout à fait. Ça, il y a le jargon économique et tout ça, mais il y a aussi, et même en France, je disais ça hier, il y a le garçon Piketty, non,
Thomas Piketty.
Oui, qui revient, qui tâche de parler à l'économie politique quand même. Alors, il tâche de faire l'économie revenir vers la politique. Et ça, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas juste des jargons ou un langage qui est décroché de la réalité.
Qu'est-ce que l'économie a fait à la littérature, selon vous ?
L'économie, je ne sais rien.
Non, mais je veux dire.
De toute façon, pour la crise, c'est bizarre parce que la crise économique, elle est là et tout ça, mais pour la crise politique, ce n'est pas juste l'économie parce que quand on prend en Europe le Portugal et l'Espagne, il n'y a pas eu une montée de l'extrême droite au Portugal et en Espagne. Alors, ce n'est pas l'économie. Ils ont souffert des choses peut-être beaucoup plus qu'en France. Et pourtant, on ne voit pas la montée de l'extrême droite au Portugal et en Espagne. Alors, l'économie, je ne sais pas, peut-être que c'est des cas historiques différents. Ils ont eu des fascismes eux-mêmes. Ce n'est pas le cas de la France. Mais je trouve que ce n'est pas direct l'économie et la crise politique immédiate.
Alors, prenons le problème à l'inverse, Bernardo Carvalho. Quand vous faites cette analyse-là, qu'est-ce que peut le texte, qu'il soit théâtral ou même romanesque, pour changer ce rapport-là au langage ? C'est-à-dire que si la crise politique, par exemple, elle est en germe dans la langue elle-même, qu'est-ce que peut la littérature, pour, je ne sais pas, donc, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Donner un nouveau sens aux mots, montrer que les mots sont déviés, quel peut être son travail ? Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, qu'en écrivant cette pièce, vous participez à une sorte de, je sais pas, de remise en ordre, remise en désordre du langage ? Je ne sais pas comment on pourrait le dire.
Oui, moi, la littérature que je fais, c'est une, je ne sais pas si le mot existe, c'est une fragilisation de la langue, ça m'intéresse. Et je trouve quand même, par exemple, par rapport à l'extrême droite, comme je parlais, pour eux, c'est important que la langue ne soit plus historique, qu'elle soit quelque chose de figé, qu'elle soit mythique, qu'elle soit mythe d'origine, qu'elle était là en France depuis toujours. Alors la France, c'est toujours la langue française dès la préhistoire. Mmh. Et qu'elle soit ça, mythe et but. Que la langue soit défendue et protégée et contre les étrangers, contre les attaques des gens qui ne savent pas bien parler et tout ça. Et alors ça, pour moi, c'est pas cette langue-là dans la littérature, c'est l'autre langue, c'est la langue, au contraire, qui c'est la langue qui se laisse fragiliser, c'est la langue qui se récrée tout le temps et qui se permet à être, qui est perméable, quoi. C'est une langue qui est poreuse, on dit en français,
ouais,
oui. et qui se fragilise, qui se casse, qui se permet, qui montre sa fragilité.
Alors comment ça s'écrit, une langue fragile ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cassez des structures syntaxiques attendues ? Ça veut dire que
pas,
vous introduisez...
Pas nécessairement, parce qu'on peut tomber dans des clichés aussi de dire maintenant la langue artistique c'est ça, et de trouver une langue qui est aussi figée dans le sens c'est haute littérature, c'est littéraire, parce qu'elle fait exactement ça, c'est la langue du modernisme. féminisme comme ça. Alors c'est aussi, ça peut être aussi un piège. Et moi, je trouve que dans cette pièce-là, la langue, elle est très, en principe, la langue grammaticale, elle n'est pas spécialement inventive.
Non, elle est assez...
Elle est assez plate, oui. Mais quand même, c'est un spectacle qui montre la fragilité de tout ça, de la langue, du parler, des discours. Et la pièce même, elle se permet à cette fragilité-là, j'ai l'impression. Elle laisse le spectateur voir et percevoir cette fragilité.
Mais est-ce que c'est pour ça, Bernardo Carvalho, que vous avez un tel goût pour l'apprentissage des langues ?
Oui, je trouve que quand même, j'ai dit aux garçons de Libération que, par exemple, Le Pen, si on l'obligeait à parler une langue étrangère publiquement, il était fichu pour toujours, parce que c'est ça le problème, c'est les fascismes, il faut dire que la langue, il faut maîtriser la langue, la langue du pays. Et on ne peut pas être fragilisé par l'usage de la langue. On ne peut pas parler mal, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que Le Pen fait très bien.
Il parle très bien.
Oui, c'est cas. Il a des oui, c'est étonnant, quoi. Et c'est un type qui n'est pas bête. Et ça, c'est horrible, quoi. Mais c'est vrai.
Et vous, votre propre goût des langues, vous, parce que vous parlez.
Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est un peu me mettre à la fragilité de ne pas parler bien une langue, d'être dans un endroit où je ne maîtrise pas.
Vous aimez ça ou...
Oui, j'aime ça.
Ah oui,
j'aime le malaise de ne pas appartenir. Et ça, je trouve que c'est quand même super et c'est quelque chose que le Brésil donne aux gens, parce que c'est quelque chose que le Brésil permet aux gens, parce que ce n'est pas un pays facile. Ce n'est pas un pays où on a tout. On a, par exemple... Pour nous, c'est incroyable ce que les gens ont. C'est super, ça, les intermittents, par exemple, d'avoir cette loi-là. Mmh. C'est pas celle qui a été dessinée, mais ce qu'ils avaient avant, oui, que ça existe. Ouais. C'est super, c'est étonnant, parce que c'est inimaginable au Brésil. Nous, on vit vraiment dans une crise qui ne se termine plus jamais, et on vit dans la précarité, mais toute la population. Et alors, oui.
Non, allez-y, dis.
Non, alors c'est plus facile de ne pas appartenir au Brésil, parce que ça demande des efforts quand même de dire moi je suis brésilien, j'adore ça, j'adore mon pays et tout ça. C'est plus facile de ne pas dire ça en étant brésilien que français. Mmh. Et je trouve quand même que ça, c'est un gain. C'est de pouvoir ne pas appartenir et vivre dans ce malaise-là. Pour la littérature, pour la création, ça c'est, pour moi c'est très important de ne pas s'identifier à la nation, de ne pas être nationaliste, de ne pas appartenir, de ne pas avoir un endroit vers lequel on revient après une guerre, où on se sent chez soi. Et je trouve que ça c'est, on ne peut pas être fasciste dans cet endroit-là. Si on n'appartient pas, ce n'est pas possible. Si on est étranger partout, ce n'est pas possible d'être fasciste. Le fascisme, il faut qu'il appartienne quelque part.
Il a besoin d'appartenance à un lieu. Justement, on va parler du Brésil. Véronique Lamandour, qui réalise cette émission, chaque jour, elle fait un petit montage sonore pour évoquer la personne qui est invitée. Donc vous, Bernardo Carvalho, aujourd'hui, voici ce que Véronique Lamandour a fabriqué aujourd'hui.
Personne ne répond à cette question. Le texte que je produis, alors c'est le mot, suit un circuit de transformation qui est très réglé à la fois par mon expérience et par mon désir qu'il en soit ainsi. Je n'aime pas beaucoup lire les textes écrits, n'est-ce pas, des gens que je connais.
Alors, ça, pour le coup, c'est un mélange. Vous avez reconnu la voix ?
Au début, non.
Roland Barthes.
Ah, ok.
Donc, c'est Roland Barthes, c'est dans des... dans une des émissions qui a été enregistrée en 1977, Fragments de voix. Et alors, c'est sur une musique qui s'appelle le bowling brésilien, mais qui est tirée de la bande originale Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Non, vous apprenez le chinois toujours ou pas?
Non, j'ai quitté ça, c'est impossible, oui.
Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu du Brésil, justement. Est-ce que, par exemple, vous êtes réconcilié avec ces deux pans de l'identité brésilienne que sont la samba et le foot?
Non, je trouve les deux superbes. C'est,
Et vous avez mis du temps à les trouver superbes, non?
Non, mais j'ai toujours trouvé super parce qu'il faut, savoir s'approcher de ça. Il y a plusieurs manières de voir la samba et le foot. Ce qui ne me plaît pas, c'est plutôt la perception exotique de ça. Mais il y a, dans la samba, il y a une intelligence et il y a vraiment des compositeurs qui sont hyper sophistiqués dans la musique et dans les paroles et tout. C'est vraiment, ça peut être très très sophistiqué. De même dans le foot, malgré ce qui se passe récemment.
Et bon, il y a eu un petit problème.
Mais ce qui ne me plaît pas, c'est d'être identifié à des signes comme ça, des clichés. C'est pénible quand même, mais pour tout le monde, pour un Français aussi, d'avoir une baguette sous le bras.
Et pourtant. C'est
pas, oui.
Alors, c'est parce que je me disais, mais je ne sais pas, c'est une hypothèse qu'il faut discuter, mais est-ce que le statut de l'écrivain au Brésil a changé? Et je me disais, à Sao Paulo, par exemple, qui est une ville, entre le Sao Paulo, la ville qui sort de la dictature il y a une trentaine d'années, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est une capitale économique gigantesque? Enfin, Sao Paulo, c'est quand même, il y a des gens extrêmement riches à Sao Paulo, il y a des gens extrêmement pauvres aussi, mais il y a des endroits de Sao Paulo qui sont d'une richesse totale. C'est la ville qui compte le plus d'hélicoptères en mouvement, par exemple, au monde. Voilà, les gens se déplacent en hélicoptère, Et est-ce qu'au milieu de ça, le statut de l'écrivain, ce que c'est qu'être écrivain, ça a changé?
Oui, je crois que ça a changé. Ceci dit, il y a quelque chose au Brésil qui est très triste et très bizarre, mais qui dit beaucoup de la tradition culturelle brésilienne. C'est que l'élite, les riches, les richissimes ne lisent pas du tout. Ils ne s'intéressent pas à la culture. Ils n'ont aucun rapport avec la culture. Et les très, très pauvres non plus, parce qu'il y en a beaucoup d'analphabètes aussi, même si on dit que non, mais d'analphabètes, comment on dit fonctionnel, oui. Oui. Les gens qui lisent, c'est une classe moyenne qui n'est pas très grande, mais qui lit comme ça. Et ce qui s'est passé récemment au Brésil, dans les derniers 20 ans peut-être, c'est que tout le monde s'est mis à écrire. Mais je crois que ça, c'est dans le monde. On fait des blagues même en disant qu'on écrit plus qu'on en lit. Ouais. Et au Brésil, il y a beaucoup de jeunes écrivains qui sont parus là dans les derniers 20 ans.
Donc, prolifération de textes.
Oui, beaucoup, beaucoup. Et je crois que ça, c'est dû beaucoup à l'Internet aussi. Il y a eu des blogs, des gens qui sont nés comme écrivains par l'Internet, par leur blog.
C'est quel type de textes qui du coup, sont
mais
publiés?
C'est de tout. Il y a des choses qui ne sont pas bien du tout, des choses médiocres. Il y a des choses formidables. Il a absolument tout. C'est pas, et ça, c'est curieux. Il a des écrivains très, très, très doués, jeunes, qui sont parus là récemment. Et il a des gens très, très mauvais et tout ça. Et c'est un...
Est-ce que ça appartient? Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'il y a des genres? Est-ce que c'est une littérature qui s'oppose contre celle, par exemple, que vous avez pu incarner, vous, à votre génération?
Oui, moi, j'ai été toujours très seul. C'est quelque chose de ma personnalité. Je suis toujours très à l'écart. Mais il y a eu des mouvements qui ont été derrière la naissance l'apparition de gens très très bien. Mais il y a, comme dans des mouvements, il y a des très bien et des très mauvais en même temps qui sont dans le même mouvement, et peut-être c'est ça qui me gêne un peu dans l'idée de mouvement, c'est de falloir au début au moins défendre un truc collectif qui est très inégal.
Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas, une littérature brésilienne qui échappe à des grands mouvements de mondialisation de la littérature, notamment dans les genres, enfin voilà, des genres qui se retrouvent partout, etc. Est-ce qu'il y a par exemple une littérature brésilienne qui va à la recherche d'une identité, même si elle est fictive, de langue? Est-ce que ça passe par des gens qui redécouvrent des langues?
Je ne sais pas, l'identité, ce n'est plus une question, je crois, dans la littérature. Ça a été un moment, ce n'est plus, je crois.
C'est quoi la question aujourd'hui dans la littérature?
Il n'y en a pas, c'est ça qui... C'est très diversifié, mais je crois que c'est partout, en France aussi, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. C'est comme si toute la population écrivait des romans et des nouvelles. Et alors, c'est quelque chose que, par l'Internet, ça s'est devenu très individuel en même temps. C'est un mouvement qui est général, comme si c'était un mouvement total.
Mais individualisé en même
temps. Oui, parce que c'est ça. Alors, on peut avoir des... On est, moi, je ne suis pas, mais on est tous dans l'Internet. Et chacun a son blog. Et un blog n'a rien à voir avec l'autre. Et il a des choses hyper... individuel dans chaque blog et comme ça on peut pas dire qu'il y a une littérature brésilienne qui est identifiable. Je sais pas, c'est très diversifié.
Alors, justement, parlons d'Internet, parce qu'il me semble, j'ai souvenir que à la fin des années 90, mais assez tôt en fait dans l'histoire de l'Internet, je crois 98 ou un truc comme ça, la Folia de São Paulo vous avait demandé de vous livrer à une expérience. C'est pas eu un truc comme ça où vous deviez passer quelques jours dans Internet?
C'était juste au début de l'Internet.
C'est ça, c'est 98 ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette expérience?
Oui.
C'était quoi?
C'était, il fallait rester chez moi, sans sortir de chez moi, en faisant tout par Internet, genre en commandant de la nourriture, en achetant des choses par Internet, en parlant avec des gens par des chats, non, on dit en français?
Des chats.
Chats, oui. Ouais. Chat, pardon.
Oui. Non, mais ça peut désigner un animal.
Oui, aussi. Bon, il m'a fallu rester. Et c'était très précaire parce que moi, j'avais un petit ordinateur comme ça et ça ne marchait pas vraiment. J'ai triché un peu parce que avant d'y entrer dans l'expérience, je suis allé au supermarché et j'ai acheté des pelletés de choses.
Ah ouais, mais c'est nul aussi.
Oui, c'est un peu... Moi, je suis comme ça, un peu nul.
Vous trichez, oui, dans la vie.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez quel rapport à Internet?
Enfin, c'est impossible de ne pas vivre dans ça. La seule chose que je trouve, c'est que dans le rapport imposture du langage, de discours et tout ça, je trouve qu'il y a une imposture essentielle dans l'Internet, c'est que ça représente la liberté absolue et la fin de la représentation, par exemple, qu'on aura un rapport direct au pouvoir, aux choses, qu'on n'est plus représenté et qu'on est maître de tout par l'Internet.
Ça, c'est une imposture, selon vous?
Moi, je trouve que c'est une imposture, et c'est une imposture avec des conséquences politiques très graves, vraiment. Et je trouve qu'il a une illusion qui s'est créée avec l'Internet. C'est super, moi, on ne peut pas vivre sans Internet. Ce n'est pas que je suis contre l'Internet.
Ouais, je comprends.
Mais le problème, c'est que maintenant, être contre l'Internet, c'est comme être contre Dieu ou contre la nature. Mmh. C'est ridicule. Mmh. C'est comme si l'Internet était devenu une deuxième nature contre laquelle on peut pas, peut pas se...
Mais vous croyez que ça fait quoi à l'écriture Internet, vous qui êtes écrivain? Parce que par exemple, je pense aux gens que je connais qui écrivent avec, ils écrivent sur leur ordinateur et puis ils ont des fenêtres ouvertes. Et puis par exemple, quand il faut se rappeler d'une rue qu'ils veulent évoquer, ils vont sur Google Street View et ils revoient la rue par Google Street View.
Oui. Bon, mais ça, c'est le bon côté. Hein, parce que
vous faites ça vous aussi?
Oui.
Par exemple, si vous réécriviez aujourd'hui Mongolie, le livre que vous avez écrit sur la Mongolie, vous n'iriez pas et vous le feriez strictement?
Non, pas ça. J'irais, mais en revenant, si j'avais des choses que j'avais ratées, j'aurais pu aller sur Internet et chercher des petites précisions que je n'aurais pas avec moi. Mais par contre, je trouve que c'est un poison, on dit.
Un poison,
oui. Parce que en même temps, la dispersion est absolue. Et,
vous la subissez?
Oui.
Et comment qu'est-ce qui vous distrait quand vous êtes en train d'écrire?
Mais tout, on est tout le temps sur ça. Et moi, il faut que je cherche, que je que je vois mes mails tout le temps. À chaque 10 minutes, je vois si j'ai reçu un mail ou pas. Et à chaque 10 minutes, il faut que je vois. Et moi, j'ai la page, je m'abonne au New York Times. Alors, je vais au New York Times. Et dans un article, il y a la référence à quelque chose. Alors, je vais dans cette référence-là. Et c'est dans cet article-là, il y a la référence à une autre chose. Et alors, je cherche la référence-là. Et c'est comme si c'était la connaissance absolue. Et c'est rien parce que j'oublie tout. Mais je vais de référence en référence. Oui, et quand je me rends compte, je n'ai rien fait de la journée.
Ça, on subit tous. Mais est-ce que vous pensez que ça travaille votre travail d'écrivain, ça, ça
non, mais oui, ça me fait ça. Pour le travail d'écriture, il faut combattre ça. Il faut aller contre ça. Et ça, c'est terrible parce que c'est, pour moi, déjà, l'écriture, c'est un effort. Mais qu'on ait un double effort alors pour écrire, c'est quand même.
Mais en même temps, Bernardo Carvalho, ça pourrait vous ouvrir des possibilités. Vous avez écrit, je ne sais plus où, mais je ne sais plus où j'ai trouvé cette phrase. Je rêve de faire un livre dépliable avec des pages qu'on pourrait dérouler à volonté. Bah, c'est Internet, ça. Ça, vous pourriez, torpiller le livre.
Oui, mais moi, je ne rêve plus. Hein, je rêvais quand...
Ah, quand c'était impossible, vous en rêviez. Maintenant que c'est possible, ça ne vous intéresse plus, c'est ça?
Non, pas du tout.
vous êtes compliqué, quand même.
Ah, très.
Bon, alors, pour la fin de l'émission, je vais vous faire subir un petit questionnaire.
Ouais.
Voilà, si vous n'avez pas de réponse, vous ne donnez pas de réponse, c'est pas très grave, mais si vous en avez, vous pouvez nous les donner.
Ok.
Alors, Bernardo Carvalho, donc c'est un petit questionnaire qui consiste à vous poser quelques questions autour de votre rapport au texte, précisément. Un livre sans cesse relu, que vous relisez tout le temps, donc. Peut-être que vous ne relisez aucun livre tout le temps.
Non, si, je relis, mais c'est des livres que je... Les livres que je relis, c'est ceux que je ne termine jamais. Alors, c'est que je n'ai jamais lu entièrement.
Ah, par exemple.
Alors, Proust, par exemple, je n'ai jamais lu du Proust entièrement.
Vous êtes le deuxième à nous dire ça, c'est dingue. C'est là qu'on va découvrir au bout de 3 semaines que personne n'a fini Proust.
Mais c'est comme un dictionnaire ou quelque chose comme ça. On l'ouvre et on lit un bout et on va jusqu'à je ne sais pas où. Et après, on ferme et on revient 3 mois après ailleurs.
Est-ce que vous relisez vos livres longtemps après ?
Non.
Jamais ? Quand même pas. Est-ce que parfois, quand vous avez besoin de vous
si
trouver
j'essaye,
super...
Si j'essaye, je regrette.
Ah bon ?
Oui.
Parce que vous vous trouvez ça pas bien ?
Non, parce que c'est plus la chose que je pensais que ça était. Parce que moi, j'échange quand même et le livre, il reste ce qu'il a été à un moment. Et comme ça, je suis une autre personne et je garde une illusion de ce livre-là qui ne correspond plus à ce qu'il est. Je sais pas, c'est...
Oui, mais ça pourrait être aussi un moyen de vous admirer, vous dire « Ah, oui, c'est pas mal, ça. » Non ?
Non, je sais pas.
Vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez pas besoin de vous admirer. Un texte que vous connaissez par cœur ?
Aucun.
Ah oui, aucun. Pourquoi ?
Non.
Ça vous intéresse
pas ? Ma mémoire, elle est horrible. Je suis très admiratif des gens qui récitent des poèmes par cœur comme ça. Je connais rien par cœur. C'est étonnant. J'oublie tout.
Comme Montaigne, c'est pas grave.
Ah oui, je savais pas.
Bah, il explique dans les essais qu'il n'arrive pas à retenir les livres qu'il a lus. Donc du coup, il est obligé de marquer j'ai déjà lu ça.
Ah mais alors, c'est comme moi.
voilà. Alors justement, à propos de Montaigne, comment est rangée votre bibliothèque ?
Par ordre alphabétique d'auteur.
Ah ouais, ça c'est un peu psychorigide ça comme rangement, non ?
C'est un peu quoi ?
Psychorigide.
Hyper rigide.
Est-ce que vous écrivez encore à la main ?
Non. Ah si, je prends des notes, mais c'est tout.
Ah c'est que pour les notes ? Et des notes sur quoi ? Dans un petit carnet comme
oui.
ça ?
Oui. Je porte toujours un carnet et je prends des notes, mais c'est des petites des choses courtes quoi.
D'accord. Un texte que vous avez détruit, et pour quelle raison ? Un texte qu'on vous a envoyé, une lettre, je sais pas, ou un texte de vous.
De lettres d'amour, on peut détruire aussi.
Vous avez détruit les d'amour qu'on vous a envoyé ?
Oui, déjà. Pourquoi ? Mais parce que ça s'est mal marché.
Par vengeance envers cet amour ?
Pas vengeance, mais pour l'oublier, je sais pas. Mais sinon, des textes de moi, j'en ai détruit beaucoup, beaucoup.
Un texte dont vous remettez sans cesse la lecture à plus tard, donc vous n'avez jamais encore lu, mais vous savez qu'il va falloir le faire.
Finnegan's Wake de Joyce. Je suis pas capable, mais je sais pas si je serai capable un jour.
C'est drôle parce que vous êtes le deuxième à citer Joyce dans cette catégorie-là. Ouais. C'est drôle, hein. Comme quoi, Joyce, ouais.
Je suis un cliché, moi.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que finalement, on arrive à trouver des sortes de liens entre tout ça. Un texte que vous avez honte de ne pas avoir lu, à part Joyce.
À part Joyce. Bon, Proust en entier.
Ouais.
Quoi d'autre ?
Vraiment honte.
Tolstoï, j'ai pas lu.
Vous avez pas lu Guerre et Paix ? Ah ouais, ça c'est honteux.
Je sais.
Un texte dont vous parlez souvent alors que vous ne l'avez pas vraiment lu. Proust, vous allez nous dire.
Oui, bon, je pourrais dire Proust, mais je peux dire d'autres choses.
Allez-y.
Aussi que j'ai pas lu. Je parle beaucoup des choses que je n'ai pas lues.
Ouais.
Et je par exemple, là j'ai lu, mais j'ai parlé beaucoup de Bulgakov avant de l'avoir lu.
Ah ouais. Oui. Pourquoi vous en disiez quoi alors si vous l'aviez pas lu?
Je sais pas, des bêtises.
Alors pourquoi vous parliez de Bulgakov alors que vous l'aviez pas lu? Vous
avez parlé. Parce qu'on m'avait dit que c'était super et finalement je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était vraiment. Et maintenant c'est un des Le Maître et Margarita, ouais. C'est un des livres préférés de ma vie vraiment.
Ah ouais. Ouais. Vous aviez donné des interviews par exemple où vous disiez ouais dans Bulgakov non alors que vous avez pas lu.
Non, pas vraiment comme ça, mais parce que j'ai un peu honte quand même, mais avec mes amis et tout ça, je disais que je l'avais lu. Oui.
D'accord. Comme chaque jour, on ouvre une fenêtre à la lutte que mène ici à Avignon, mais partout ailleurs en France, les intermittents, précaires, chômeurs et intérimaires. Chaque jour, donc, un texte choisi par eux, un texte et un titre aujourd'hui, « Détruire le sensible pour détruire la pensée ».
Une nouvelle forme de censure, ne reposant plus sur l'interdiction et le manque, mais sur l'excès, voire le gavage, nous menace au plus profond de nous-mêmes, nous empêchant de prendre de la distance aussi bien pour penser que pour rêver. Ainsi, en suis-je venu à l'idée d'un trop de réalité, non sans être prise de vertige à en reconnaître les effets dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'information, de l'alimentation, de l'habillement, sans parler des loisirs. Pire, ce trop de réalité est en train de devenir notre seule et unique réalité, imposant sa positivité mensongère à travers ce que j'ai appelé un langage de synthèse propre à faciliter le formatage de nos façons d'être et de penser pour produire autant d'idées sans corps que de corps sans idées. Bombe propre, frappe chirurgicale, bureau paysager, instrumentation légale, croissance négative, langage de synthèse, langage pseudo-scientifique jouant sur une intimidation à la technicité qui vise à liquider ce qui nous reste de singularité. On en est même arrivé à une dévalorisation de l'approche sensible telle qu'attitude, affect et sentiments sont de plus en plus évoqués dans un vocabulaire de communicants qui les transforme en matière à gérer, motiver, valoriser, négocier, dans une perspective de performance qui tient du management. Comme si le sérieux dépendait désormais de l'absence de toute référence sensible. C'est en cela que j'ai aussi parlé d'un retournement du langage, au sens policier du terme, dans la mesure où celui-ci parvient ainsi à nous désinformer sur nous-mêmes, en nous désapprenant à ressentir pour mieux nous désapprendre à discerner. Annie Lebrun, Ailleurs et autrement, 2011. Demain, samedi 12 juillet, journée nationale de grève et d'action. Rendez-vous à 10h à l'Université d'Avignon pour une assemblée générale unitaire et à 14h pour une manifestation devant la gare d'Avignon Centre. On vous attend nombreux et bon week-end à tous.
Merci beaucoup Bernardo Carvalho d'être venu ce matin vous livrer à cet exercice. Alors vos livres, donc je le disais, sont plus souvent traduits en français et trouvables partout, par internet par exemple, mais aussi en librairie. J'invite donc les auditeurs et auditrices à les lire. La pièce dont vous êtes l'auteur, Dire ce qu'on ne pense pas dans des langues qu'on ne parle pas, mise en scène Antonio Arroyo, comment on dit bien en Brésil ?
Araújo.
Est donné à l'hôtel des Monnaies jusqu'au 17 juillet. Nous, on se retrouve lundi, ici même, donc toujours à Avignon, toujours au festival, toujours dans la cour de l'université. Et à votre place, Bernardo Carvalho, ce sera Ivo Van Hove, qui est metteur en scène. Et alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il a adapté et mis en scène une pièce de l'auteur américaine Ayn Rand, auteur qui est hautement contestable, mais aussi hautement fascinante. Donc ça, ce sera lundi à 11h dans Des idées sous les platanes. Et puis, à partir de lundi, on sera suivi par la grande table d'Olivia Gesbert, qui sera aussi enregistrée et diffusée, enregistrée en public et diffusée sur France Culture à 12h45 tous les jours. C'était donc Des idées sous les platanes, une émission préparée par Geneviève Méric à la technique ce matin. C'était Georges Thau, Olivia Branger et Tahar Bouklifa, chargée de production Jean-Christophe Perrin, réalisation Véronique Lamandour. Dans quelques instants, vous retrouverez On ne parle pas la bouche pleine, Alain Crugère. Bon après-midi et bon week-end.